Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va se demander comment prendre de bonnes décisions. On va parler d'intuition et un peu d'esprit critique aussi. J'ai l'impression que la situation actuelle, avec la pandémie, tout ça a poussé beaucoup de personnes à se poser des questions. Est-ce que j'ai envie de déménager, de rompre avec la personne qui partage ma vie? Est-ce que j'ai envie de changer de carrière? Une petite précision sur le vocabulaire, je viens d'utiliser le verbe « rompre avec quelqu'un ». Ça veut dire se séparer de quelqu'un, mettre fin à une relation. Bref, tout ça a poussé beaucoup de gens à se poser des questions et par conséquent à prendre de grandes décisions. Avant de vous expliquer plus en détail de quoi on va parler aujourd'hui, je voulais prendre une minute pour vous dire merci. Merci d'écouter ce podcast. Avec chaque nouvel épisode, vous êtes un peu plus nombreux et nombreuses. Et ces derniers jours en particulier, j'ai reçu plein de messages adorables de personnes qui écoutent le podcast. Alors, merci pour ça aussi. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Le point de départ de notre conversation, c'est un podcast que j'ai écouté cette semaine. Un podcast que j'ai trouvé passionnant. C'était une discussion sur la manière dont on prend des décisions, sur les choses qui ont un impact sur notre jugement. La question qu'on va se poser, c'est la suivante. Comment prendre de meilleures décisions? Et aussi, est-ce qu'on peut faire confiance à l'intuition dans nos choix? Pour essayer de répondre à ces questions, on va d'abord s'intéresser aux choses qui peuvent altérer notre jugement. Ça va être l'occasion d'explorer deux concepts, le biais et le bruit. Ensuite, on va chercher à comprendre comment l'intuition fonctionne et comment elle peut nous aider dans nos décisions. Pour finir, on va dire quelques mots sur l'esprit critique et sur ce qui peut nous aider quand on a un choix difficile à faire. Tout d'abord, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai une grande décision à prendre, je me pose beaucoup de questions. Je me demande comment prendre la bonne décision. On voudrait être sûr de ne pas se tromper, surtout quand c'est une décision importante. Le podcast que j'ai écouté cette semaine soulève une autre question intéressante. D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, vous aussi, je vais ajouter toutes les références dans les notes de cet épisode. En écoutant ce podcast, j'ai réfléchi à comment nos choix et aussi les choix des autres, comment tout ça peut avoir un impact sur notre vie. Vous avez peut-être déjà entendu parler des biais et plus précisément des biais cognitifs. Si je devais expliquer ça le plus simplement possible, je dirais qu'un biais est une forme de pensée trompeuse, qui n'est pas logique ou rationnelle. Il nous permet de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Il influence nos choix et on a tendance à l'utiliser de manière systématique dans certaines situations. Je vous donne un exemple et j'en donnerai d'autres un peu plus tard. Un exemple de biais de jugement, c'est l'illusion de savoir. L'illusion de savoir, c'est se fier à des croyances qui sont fausses, pour comprendre une réalité ou une situation, sans chercher à obtenir d'autres informations. On a toutes et tous entendu parler des biais cognitifs, même s'ils sont inconscients parfois. Quand on doit prendre une décision, il y a plusieurs manières de se tromper. Le biais est une de ces manières. Mais il y en a une autre qui est moins connue. C'est le bruit. Le biais et le bruit, ce sont deux termes utilisés dans le domaine des statistiques. Je vais reprendre un exemple assez simple pour essayer de vous expliquer la différence entre le biais et le bruit. Dans le podcast, l'invité donne l'exemple d'une balance. Une balance, vous savez, c'est l'objet qu'on utilise pour se peser, pour connaître son poids. Imaginez une balance qui, tout le temps, ajoute quelques kilos en plus à votre poids réel. Dans ce cas, on parle de biais. Cette balance est biaisée, les résultats qu'elle donne sont systématiquement incorrects, mais ils sont incorrects de manière constante. Imaginez maintenant une autre balance qui vous donne parfois un poids plus lourd et parfois un poids plus léger. Là, c'est un exemple de bruit. Cette deuxième balance est « bruyante », entre guillemets. Autrement dit, elle donne des résultats aléatoires. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de savoir comment le biais et le bruit peuvent influencer nos choix. Vous vous demandez peut-être quel est leur impact sur le jugement humain. Je vous donne un dernier exemple, avec un juge. Imaginez un juge ou une juge qui est raciste, sexiste ou très sévère dans ses jugements. Tout ça, ce sont des exemples de biais. Ils vont influencer son jugement de manière systématique, de manière consciente ou inconsciente. Par ailleurs, des statistiques ont montré qu'un juge va être un peu plus sévère avant le déjeuner. Il serait moins sévère après avoir mangé. Ça, c'est un exemple de bruit. C'est quelque chose qui ne devrait pas avoir d'impact sur le jugement, mais qui a une influence en réalité. Pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de se tromper, il faut avoir conscience du biais et du bruit. J'espère que les exemples que je vous ai donnés vous aident à mieux comprendre leur place dans nos décisions. Je sais que le bruit est un concept difficile à cerner. Cerner quelque chose, c'est une autre manière de dire comprendre quelque chose. On a du mal à comprendre le bruit parce que c'est très aléatoire et presque impossible à prévoir. Maintenant qu'on a exploré ces deux concepts, à votre avis, comment on peut faire pour réduire le bruit, pour éviter de se tromper? Je crois qu'il faut s'entourer d'autres personnes. Rester seul quand on doit prendre une décision, c'est passer à côté de perspectives différentes. Ici, passer à côté de quelque chose, ça veut dire manquer une opportunité. L'opportunité d'avoir le point de vue d'une autre personne sur sa situation. Dans le podcast que j'ai écouté pour préparer cet épisode, l'invité dit quelque chose de très marquant pour moi. Il dit que chaque fois qu'on peut avoir l'opinion de quelqu'un pour avoir un autre son de cloche sur la décision qu'on est en train de prendre, on a intérêt à le faire. Dans cette phrase, avoir un autre son de cloche, ça veut dire avoir une autre opinion, un autre avis. Avoir intérêt à faire quelque chose, ça signifie que c'est avantageux. Ça présente des avantages, des bénéfices, d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Mais il y a une autre chose qui m'a vraiment marquée. Il explique qu'on fait souvent l'erreur de demander le point de vue d'une personne qui, on le sait déjà, va être d'accord avec nous. Si je vais voir cette personne et je lui dis « je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» elle va probablement dire qu'elle est d'accord avec moi parce que c'était le but de ma question, avoir l'approbation de mon ami. C'est pas la meilleure manière d'obtenir un bon conseil. Vous pouvez, par exemple, demander conseil à une personne qui est neutre, qui ne sait pas ce que vous pensez. L'objectif est d'avoir un autre point de vue, le plus indépendant possible. Confronter plusieurs opinions de cette manière, ça peut être un bon moyen de réduire le bruit et de prendre de meilleures décisions. En plus de ça, c'est utile de prendre du recul. Dans cette situation, notre entourage, nos amis peuvent également nous aider en nous faisant penser à autre chose, voir les choses sous un angle différent, d'une part. D'autre part, c'est intéressant de savoir ce qu'il ferait à notre place. Au final, c'est à nous de prendre la décision, d'écouter leurs conseils ou pas. Grâce à cette prise de recul, on arrive à mieux définir les critères importants pour nous. On trouve des critères auxquels on n'aurait pas pensé si on était resté seul de son côté. Encore une fois, c'est à vous de choisir l'importance que vous donnez à l'opinion des autres. Ça peut être très enrichissant de passer par une étape collective, une étape d'échange, avant de prendre une décision personnelle, avant de se faire son propre jugement. Au bout du compte, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est le plus important pour vous. Passons à la suite. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à l'intuition. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et comment elle peut nous aider dans nos décisions? Dans le biais et le bruit, il y a quelque chose d'analytique, de statistique. Avec l'intuition, en revanche, c'est beaucoup plus immédiat. C'est un phénomène qu'on a du mal à expliquer parfois. L'intuition, c'est quoi? C'est le fait d'avoir subitement un pressentiment. Subitement, ça signifie soudainement. C'est le fait de comprendre quelque chose sans passer par un raisonnement ou une analyse. Comme toujours, la science veut trouver une explication simple à chaque chose. Elle a donc cherché à expliquer les phénomènes d'intuition à partir de la fin des années 70-80. C'est impossible de comprendre certaines situations, mais les chercheurs ont quand même réussi à identifier des processus inconscients automatiques. Ces processus nous aident à mieux comprendre le fonctionnement de l'intuition et d'autres choses, comme l'apprentissage inconscient. Dans cet épisode, on se concentre sur l'intuition en relation avec la prise de décision. On sait aujourd'hui que ce type d'intuition fonctionne grâce à deux moteurs. Le premier moteur, c'est l'expertise. Dans un article que j'ai lu cette semaine, le journaliste prenait l'exemple d'un joueur de football. Pendant l'entraînement, ce joueur répète encore et encore les mêmes gestes. Quand le moment du match arrive, il répète à nouveau ses gestes de manière automatique, presque inconsciente. La chose importante à retenir ici, c'est que l'intuition n'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas avec la capacité d'être intuitif. Notre intuition se construit grâce à toutes nos expériences. Ça explique que certains soient plus enclins à se servir de leur intuition que d'autres. Être enclin à faire quelque chose, c'est un peu comme avoir tendance naturellement à faire quelque chose ou être prédisposé à quelque chose. Bref, il y a des gens qui sont plus enclins à utiliser leur intuition, alors que d'autres sont plus enclins à se servir du raisonnement, de la réflexion, de l'analyse. En gros, c'est avec nos expériences qu'on développe notre intuition. Je voudrais souligner deux choses au sujet de l'expertise. Première chose, l'intuition repose sur peu d'informations. On n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour identifier la bonne décision. Et la deuxième chose, la première idée qui nous vient à l'esprit est généralement la bonne, celle qui est la mieux adaptée à notre situation. Au-delà de l'exemple du sport, il y a pas mal de domaines où l'expérience aide à développer une certaine compétence. Quand je dis qu'il y a pas mal de domaines, pas mal, ça veut dire beaucoup. Évidemment, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'apprentissage des langues. Je travaille avec pas mal d'élèves qui ont un niveau intermédiaire ou avancé, et c'est quelque chose que j'observe très souvent. Les élèves qui ont beaucoup de pratique développent naturellement une intuition. Quand vous avez une conversation en français, de manière plus ou moins consciente, vous prenez des décisions. Vous formulez des phrases d'une certaine manière, vous choisissez le mot juste, vous vous exprimez autrement. Plus vous avez de l'expérience, plus ça devient intuitif. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à la dimension intuitive dans nos décisions. Pour revenir au moteur de l'intuition, je vous ai déjà parlé de l'expertise. Le second moteur est lié aux émotions. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous devez réagir rapidement. Votre cerveau va aller chercher dans vos souvenirs, dans votre historique émotionnel, pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous allez prendre une décision intuitive à partir du souvenir d'une situation similaire que vous avez déjà vécue et des émotions qui sont attachées à ce souvenir. En résumé, les expériences et les émotions nourrissent l'intuition. Comme d'habitude, je pourrais mentionner beaucoup d'autres choses. Mais si je devais ajouter une dernière chose sur l'intuition, je dirais qu'il faut l'utiliser à bon escient. À bon escient, ça signifie de la manière appropriée, avec discernement. Avant de prendre une décision dans un domaine particulier, vous pouvez par exemple prendre un instant et vous demander « Est-ce que j'ai assez d'expérience dans ce domaine pour faire confiance à mon intuition dans cette situation ?» Si vous êtes dans une situation familière, vous pouvez suivre votre intuition. Mais si la situation est inédite, complètement nouvelle pour vous, c'est peut-être une bonne idée de prendre le temps d'analyser les différentes options possibles. En tout cas, un petit rappel avant de passer à la suite, le meilleur moyen de développer notre intuition, c'est d'être en contact avec quelqu'un ou quelque chose qui nous contredit. C'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui va contre nos opinions ou nos idées. Cette remise en question va nous aider à développer nos pensées et à faire travailler notre esprit critique. Avec les quelques minutes qui restent, je voulais justement parler un peu d'esprit critique. En tant que professeur, je crois que c'est important d'encourager ses élèves à remettre en cause leurs opinions, et pourquoi pas, celles de leurs professeurs aussi. L'idée, c'est de s'interroger sur les choses qu'on croit savoir et d'utiliser son esprit critique. En préparant cet épisode, j'ai retrouvé les phrases suivantes dans mes notes. L'esprit critique devient intéressant quand on l'applique aux choses auxquelles on croit soi-même. L'esprit critique consiste d'abord à penser contre soi, pas à penser contre les autres. C'est Olivier Ciboni qui parle. C'est l'invité du podcast que j'ai mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Il est professeur de stratégie et il a co-écrit un livre sur le bruit. Il dit aussi quelque chose de très intéressant sur le fait de réaliser qu'on a tort sur quelque chose. Autrement dit, qu'on n'a pas raison. Réaliser qu'on s'est trompé, ça peut être une fabuleuse occasion d'apprendre quelque chose. Avant de passer à la conclusion, j'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce qui vous aide quand vous avez un choix difficile à faire? Par exemple, pour moi, déménager en France, c'est pas forcément une décision facile. Alors, il faut peut-être que j'explique ce que c'est, un choix difficile. Un choix difficile, c'est une situation où il n'y a pas vraiment un choix qui est meilleur que l'autre, dans l'ensemble. J'ai plein de bonnes raisons d'habiter en France et j'ai aussi plein de bonnes raisons d'habiter à Taïwan. C'est pour ça que je dis que c'est un choix difficile. C'est une décision qui va avoir un impact très important dans ma vie de tous les jours. Un impact positif, j'en suis sûre. Et puis, je suis super contente de déménager en France et de me rapprocher de ma famille. Après tout, c'est une décision mûrement réfléchie. Quand je dis que c'est une décision mûrement réfléchie, ça signifie que mon mari et moi, on a beaucoup pensé, on a beaucoup réfléchi à ce projet. Si vous aussi, vous êtes dans une période où vous avez des choix difficiles à faire, j'ai peut-être quelques pistes de réflexion à partager avec vous. Bien sûr, vous pouvez peser le pour et le contre en faisant des listes, c'est toujours utile. Un truc qui m'a aidée, ça a été de me demander ce qui compte le plus pour moi, ce qui est vraiment important. Il faut aussi prendre conscience qu'on ne fait pas d'erreur en choisissant une option plutôt qu'une autre. Faire un choix difficile, c'est se donner la possibilité de s'engager pleinement dans une direction. C'est se demander qui on veut être, réfléchir à comment on souhaite vivre, à ce qu'on peut faire. c'est créer ses propres raisons de choisir une option plutôt qu'une autre. Ce qu'on va faire, finalement, ça dépend vraiment de chacun de nous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur tout ce qui influence nos décisions. Comme d'habitude, vous trouverez des ressources supplémentaires dans les notes de cet épisode. Et pour continuer la conversation, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage aussi des ressources et les transcriptions des anciens épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, mettre une note sur Apple Podcast et écrire un commentaire. Ça fait vraiment la différence pour soutenir mon travail. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !